Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir à toutes et à tous, ravi d'être avec vous après ce petit lundi de repos dû au week-end de Pentecôte. Alors on va coller en plein dans l'actualité. On va beaucoup parler de ballon rond ce soir avec un fidèle, un invité que je suis ravi en tout cas d'accueillir comme à chaque fois lorsqu'il vient dans nos studios participer à nos différentes émissions. C'est notre ami Guy Michelin. Guy, bonsoir. Je vais te demander de te rapprocher un peu plus près du micro. Voilà.
Bonsoir, voilà. Bonsoir à tous.
Ça va Guy?
Tout va bien.
Hein, on va faire un petit bilan de la saison, Ligue 1, Ligue 2, Nationale.
Absolument.
Très brièvement, la saison, elle t'a plu?
Elle m'a beaucoup plu.
Oui.
Oui, oui.
D'accord.
Elle m'a beaucoup plu.
Très bien. Alors, on sera accompagné naturellement, comme chaque lundi, de Vanessa, que je salue. Bonsoir, Vanessa.
Bonjour à tous. Bonjour, Philippe.
Alors, Vanessa, elle connaît tout de la flamme olympique. Hein. Elle suit tous les jours le parcours de la flamme. Donc, elle nous en dira un peu plus. Elle nous donnera aussi quelques infos olympiques, si nécessaire. Et puis, lui, il n'a pas arrêté de décoller. Il est resté devant son poste pendant tout le week-end. Il y a eu un fou week-end de sport, il va nous en parler, c'est Alexandre. Bonsoir Alexandre.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
Ah, t'as été gâté hein?
J'ai été gâté,
entre
j'ai
le rugby,
hâte de vous en parler.
La Formule 1, le tennis, Nadal battu?
Nadal battu 3-7 à 0.
Ah là là, donc c'est la fin de...
Déjà terminé, ouais.
C'est fini, je pense qu'on ne le reverra plus sur Roland Garros.
Ouais, malheureusement,
voilà.
Ouais.
D'un autre côté, c'était un beau match, c'était un match qui promettait beaucoup de rivalité, et ouais. C'était, beaucoup l'avaient dit, mais c'est magnifique, hein. C'est quand même sa 21e, ouais. Je crois que sa 21e participation.
Oui, oui, 14 victoires donc, sur Roland Garros.
Depuis ouais. 2005 sur ouais, Roland Garros, donc
très
voilà,
bien.
C'est ça.
Alors, on va, donc, je l'ai dit, après ce riche actualité sportive, ce riche week-end de sport, revenir quand même sur l'actu foot de cette année, hein, de cette semaine aussi avec les différentes finales. Guy, d'abord un petit mot sur la Ligue 1. Paris Saint-Germain donc est un beau champion.
Oui, c'est un beau champion, en la mesure où, malgré l'élimination en Ligue des Champions, il y a quand même un bilan qui est très positif. Champion de France, oui. Avec 9 points d'avance, vainqueur de la Coupe de France, du Trophée des Champions, demi-finaliste de la Ligue des Champions. Il y a beaucoup de clubs qui aimeraient avoir un palmarès pareil. Quoi. Oui.
Est-ce qu'on peut estimer que c'est une belle saison?
C'est-à-dire, on est un peu mitigé dans la mesure.
Ah oui.
On aurait aimé que le PSG aille beaucoup plus loin. Parce qu'il a eu un tirage qui était relativement clément avec...
Sur le deuxième tour, hein. Sur
oui,
la
voilà,
fois,
ouais, oui, oui.
Premier tour, c'était un petit peu plus
non,
compliqué.
Un peu plus compliqué.
Ouais.
Mais je pense que Dortmund, c'était quand même une équipe qui était prenable. Et c'est quand même dommage qu'ils n'aient pas été jusqu'en finale, quoi.
Bon.
Cela dit, pour le reste, c'est la logique, hein, parce que au début de la saison, on sait déjà qu'avec l'effectif du PSG, c'est lui qui va être champion, quoi.
Ouais, parce qu'on se rappelle, l'année dernière, le titre était joué, mais Paris s'était un petit peu relâché en fin de
saison.
Pour finir avec un point d'avance, là, ça va quand même, il y a 9 points d'écart à l'arrivée.
Oui, 9 points d'écart à l'arrivée. Bon, il y a eu quelques couacs
oui.
Contre Clermont, etc. Mais bon, le problème, c'est qu'il y a eu une fin de saison un petit peu perturbée. Avec le départ de Mbappé.
Ouais, c'était compliqué, très compliqué.
Qui était un départ qui n'était annoncé sans être annoncé, tout en étant annoncé.
Ouais.
Et ça n'a pas été très bon, quoi.
Mmh.
Alors, ça peut être coûté quelques points, mais ça n'a pas empêché que le PSG se soit bien repris à Nice, après à Metz.
Mmh.
Mais bon, il y a...
Ouais. Alors, ça en fait quand même le club français à l'heure actuelle le plus titré, hein, tu le disais, 12 championnats de Ligue 1,
15 coupes de France,
12 trophées des champions, ouais, 9 coupes de la Ligue.
Tout à fait.
C'est le club le plus titré de l'histoire du français.
Absolument.
Ouais, ouais. Alors, on va revenir justement sur cette dernière journée, sur le bilan total de ce championnat. Alors, comme on était un petit hors pot le week-end dernier, on avait quand même, on va vous rappeler très brièvement les résultats. D'abord, des deux matchs en retard, hein, puisque Paris Saint-Germain avait battu Nice 2-1, et puis Reims battait dans le même temps Marseille 1-0. Et puis, lors de la dernière journée, on a eu la victoire de Paris à Metz 2-0, de Monaco devant Nantes 2-0, nul entre Lille et Nice de partout, victoire de Brest à Toulouse 3-0, Lens-Montpellier, Machul de partout, victoire de Lyon devant Strasbourg, Bourdouin, Marseille qui finit sa saison donc par une victoire au Havre 2-1, victoire aussi de Reims devant Rennes 2-1 et Lorient qui a écrasé Clermont 5-0. Donc on l'a dit, le PSG en tête avec 76 points, qui termine avec 9 points d'avance sur le deuxième Monaco. C'est une belle saison aussi pour Monaco. Ils ont eu un petit
très belle saison.
Ils ont eu un petit coup de mou, mais ils ont bien fini.
Oui, mais enfin, oui.
Voilà. Et puis Guy, on en parlait hors antenne tout à l'heure, le troisième, ça c'est la grosse sensation de la saison, Brest, 61 points. Ça veut dire que Paris, Monaco et Brest joueront la Ligue des Champions la saison prochaine.
Ah bah, c'est un événement historique pour les Bretons parce qu'ils n'ont jamais disputé de Coupe d'Europe. Quoi. Mm-hmm. Bon, il s'est passé un truc avec eux cette année. Il y a un collectif qui a été très bien huilé et très bien peaufiné par Éric Roy. Oui. Qui mérite d'être un peu mieux connu parce que c'est quand même un très très bon technicien. Mmh. Et il a fait de ce groupe un collectif qui était impressionnant, quoi. Mmh. En plus, ça joue bien.
Oui, ça joue bien. C'est une belle équipe.
Il y a eu une révélation dans l'équipe de Brest. C'est un gars qui a quand même été meilleur passeur de la saison. C'est Romain Del Castillo.
Oui, oui.
Qui a vraiment éclaté cette année, quoi.
Alors justement, il est meilleur passeur à égalité avec Gomez et Dembélé, 8 passes. Hein,
voilà.
Meilleur passeur de la saison. Brest, il jouera probablement ses matchs de Coupe d'Europe à Guingamp.
Oui, sans doute à Guingamp, parce que je sais pas, c'était Rennes ou Guingamp. Ouais.
C'est un peu plus loin Rennes, donc.
C'est un peu plus loin.
Ouais. Donc ça, c'est les trois clubs qui joueront la Ligue des Champions. Un petit mot, Alexandre, sur ce tiercé.
Bah, franchement, Brest qui a fait une très très grosse saison,
hein.
Qui était longtemps deuxième, qui s'est un petit peu écroulé sur la fin, mais on ne peut pas leur en vouloir.
C'est Monaco qui a bien fini.
Et c'est Monaco qui a très très bien fini. Et je suis content pour le football français. Bon, on en parlait au bout du foot il y a quelques semaines, mais je suis content pour le football français que Monaco quand même puisse être en Ligue des Champions. Mais j'ai envie de dire, bon, on en reparlera peut-être un peu après, mais les grands absents, c'est tout ce qui est Lyon, Marseille,
oui,
même Lens qui a déçu.
On va en parler. Ah, ouais.
Et Lille qui s'est bien rattrapé, qui finit quatrième. Mmh. Et Rennes aussi très décevant, mais voilà.
Alors Guy, c'est plus fort que Lens, Brest, cette saison, parce que l'an dernier, Lens fait deuxième du championnat, c'était la surprise.
Oui.
La Lens, Brest, c'est encore plus fort, leur exploit.
Bon, c'est-à-dire c'est encore plus fort dans la mesure où...
Il y a moins d'histoire.
Il y a moins d'histoire, voilà, exactement.
Oui.
Exactement. Alors maintenant, bon... On sait qu'une équipe comme Brest, c'est exactement ce qui est arrivé à Lens en fin de saison. Quand vous avez une équipe qui réussit à un tel niveau, il y a forcément des joueurs qui sont convoités par d'autres clubs ou qui ont envie d'ailleurs. Et à Lens, ils ont perdu quand même les deux joueurs qui avaient fait l'essentiel, c'est-à-dire Openda et c'est quoi Fofana.
Ouais.
Quand vous perdez deux pièces maîtresses comme ça, ou vous les remplacez, ou si vous ne les remplacez pas, il y a un manque. Bon, c'est ce qui s'est produit.
Ouais.
Bon, ils n'ont pas été mal en Coupe d'Europe, mais ils auraient peut-être pu faire mieux, voilà. Et j'ai peur qu'avec Brest, parce qu'il y a quand même eu des révélations dans cette équipe, un tas de joueurs qu'on ne connaissait pas, et finalement, ils ont un peu crevé les grands. Il y en a qui ont envie de partir.
Ouais.
J'ai entendu les Smelou, par exemple, le petit Del Castillo, on ne sait pas, il y a 3-4 joueurs, Brassier, qui a fait une saison magnifique également. Donc vous voyez, moi c'est ça qui me fait peur, quoi.
Oui, le risque, c'est que Brest fasse malheureusement la figuration l'année prochaine
c'est
en
ça.
Ligue des Champions.
C'est ça. Ouais. Et ça, c'est pas très bon pour les coefficients. UEFA, parce qu'on a besoin de clubs qui marquent des points, quoi.
Ouais. Enfin, pour l'histoire du foot, c'est bien. Ça veut dire
pour l'histoire du foot, c'est
on peut
bien.
Ne pas avoir de gros budget et finir dans les trois premiers du championnat.
Voilà, c'est une tellement belle aventure pour eux que faut dire chapeau, quoi, chapeau.
Alors, Alexandre, en parlait tout à l'heure, Lille qui termine quatrième avec 59 points, Lille qui devra passer par un tour préliminaire. Cette équipe de Lille, elle est constante depuis quelques saisons. Hein.
Oui, elle est constante. Là. Mais dommage, ouais. Là, elle loupe le podium dans rien. Quoi. Mmh. Parce que les matchs préliminaires en Ligue des Champions sont des pièges.
Ouais, ouais.
Sont des pièges.
Mmh. Mais c'est vrai que c'est une équipe quand même qui
une équipe est constante,
constante
voilà.
Régulière voilà. Depuis, oui, oui, depuis 3 ans, même depuis l'année où elle a été championne de France.
Et ils avaient un très très bon entraîneur cette année. Hein. Mmh. D'ailleurs, qui va peut-être partir au Milan.
Bah ouais.
Ça, Marseille le voulait, mais je crois que c'est au Milan qu'il va aller.
Alors, cinquième, c'est Nice, 55 points. Alors, Nice, ils ont bien commencé le championnat.
Très bien.
Après, ça s'est moins bien passé.
Oui, c'est vrai.
Bon, ils arrivent quand même à décrocher le top 5.
Ouais.
C'est pas une équipe très spectaculaire, quand même.
C'est pas spectaculaire, non. Ouais. Non.
Hein, mais bon, cinquième,
c'est... Voilà aussi, il y a un collectif aussi, ouais. Là, tu veux. Mais bon, mm-hmm. Il manque un petit truc, petite flamme.
Ouais, ouais. Bon, ils vont quand même... bon, ils sont dans leur... ils vont jouer en Ligue Europa.
Ils vont jouer à la Ligue Europa.
Voilà, ils peuvent quand même s'estimer d'une saison...
Je pense même qu'on aura 7 clubs en
Coupe d'Europe. Oui. On va venir. Oui,
on va venir, là.
Oui, oui. Bah, le sixième qui
alors
jouera...
Alors là, le sixième...
Qui jouera la Ligue Europa. C'est là. Incroyable. On s'est tous plantés.
C'est un miracle.
Ouais. Lyon, sixième avec la Ligue Europa.
C'est un miracle total. Ouais, ouais, ouais. En janvier, j'étais quasiment dernier, au bord de la relégation. Mm-hmm. Et puis, j'ai passé un truc. On a fait venir un gars inconnu.
Oui, du
Pierre
cru,
Sage.
Par contre.
Pierre
du cru,
Sage.
Du cru.
Voilà, un gars du cru. Mm-hmm. On l'a laissé travailler. Moi, j'avais peur qu'un mec comme Textor, l'Américain qui déboule dans un club comme Lyon, il a envie de beaucoup de changer. Il l'a laissé travailler. Quand un entraîneur français à des présidents, des dirigeants qui le laissent bosser, ils obtiennent des résultats. Mmh. Ce qui se passe avec Éric Roy à Brest, ça s'est passé avec Sage à Lyon, mais Sage a fait un truc extraordinaire. Passer de la dernière place à la sixième, les Anglais ils appellent ça, dans les courses, ils appellent ça « from last to first
».
Bon, c'est presque ça, quoi.
Ouais. Non, c'est sûr. Alors, c'est vrai que l'avantage, c'est que Sage, il était du cru, il était lyonnais, il connaissait le vestiaire, ce que ne savaient pas faire les autres entraîneurs, quoi.
Voilà. Ils n'ont plus qu'à avoir son diplôme, qu'il va avoir bientôt, d'ailleurs.
C'est vrai que, Alexandre, on s'était tous portés, on pensait que Lyon allait faire comme Saint-Etienne. Allait Bordeaux, le seul qui les avait dit qu'ils vont se maintenir et qu'ils vont faire une Coupe d'Europe, c'est El Hadj.
C'est El Hadj, mais à cette époque-là, j'étais pas encore dans l'émission et moi aussi, je pensais qu'ils qu'ils allaient se maintenir, voire même faire une bonne saison. Mais c'est fou, mais cette saison, elle se résume encore plus à Alexandre Lacazette, je trouve.
J'allais en bas.
Qui a remporté l'équipe de bout en bout.
C'est lui.
Et j'étais déçu qu'il soit pas nominé dans les joueurs, dans les meilleurs joueurs de Ligue 1, forcément.
Oui.
Mais non, il a fait une énorme saison. Ils ont réussi à prendre Saïd Benrahma aussi au mercato d'hiver, qui a bien apporté. Et Pierre Sage aussi, là où il a été fort, je trouve aussi. C'est dans sa gestion de Ryan Cherki où il a bien remis sur le droit chemin. Il a fait de très bonnes rentrées, Ryan Cherki. Et finalement, voilà, c'est une bonne nouvelle pour le foot français que Lyon finalement une Coupe d'Europe.
Et en plus, ils arrivent en finale de Coupe. Bon, sincèrement, Paris n'a pas véritablement tremblé. Hein, 2-1, même s'il y a eu la réduction du score, Paris n'a pas tremblé dans cette finale.
Non.
Ouais, victoire logique et méritée, pratiquement tous les matchs qu'a eu Paris cette année en Coupe de France.
Ils ont maîtrisé du début à la fin, quoi. Ils avaient fait en championnat.
Oui, et même en Coupe, hein, parce qu'ils ont été un petit peu, des fois, bousculés par Brest ou pour Nice, sans grosses difficultés quand même, à l'arrivée. Alors, justement, donc Nice et Lyon, on l'a dit, joueront la Ligue Europa, et on y venait, le 7e, c'est Lens, 51 points, qui jouera la Ligue Europa
Conférence.
Il sauve un petit peu la face, Lens.
Oui, un petit peu, oui.
Ouais. Alors, par contre, grosse, énorme déception.
Cela
c'est
dit,
Marseille.
7 clubs en Coupe d'Europe.
Oui, c'est bien.
C'est quand même pas mal pour le football français.
Oui,
quoi.
C'est bien.
Parce qu'on a quand même réussi cette année à distancer non seulement le Portugal, qui est maintenant très écarté.
Et les Pays-Bas.
Et les Pays-Bas, c'était juste à un moment donné. Mm-hmm. Mais comme on a marqué beaucoup de points en se qualifiant au tour suivant, et qu'on a quand même amené 2 clubs en demi-finale, à chaque fois, c'est des points de bonus, quoi.
Bien sûr.
Alors que les Pays-Bas, qui n'avaient que 4 clubs, disparaissaient les années.
Ça fait un moment qu'ils n'ont plus de clubs en demi-finale. Hein. Voilà. Ah ouais. Alors, tiens, justement, Guy, c'est une question qu'on a souvent entre nous, dans nos différents débats. Le niveau de la Ligue 1 par rapport à l'Angleterre, à l'Espagne, à l'Allemagne ou à l'Italie.
On ne peut pas, comparer avec des championnats comme l'Angleterre, l'Espagne ou même l'Allemagne, par exemple. Bon, l'Italie a eu un petit sursaut, une résurrection, un peu cette année, et surtout l'an dernier, avec les Coupes d'Europe. Mais l'Italie n'est pas non plus un championnat du même niveau que les trois premiers, quoi. Mm-hmm. C'est difficile de le comparer. Quand vous écoutez Luis Enrique, qui a quand même été entraîneur des clubs comme Barcelone, de l'équipe nationale d'Espagne, et qui vous dit « je suis surpris par la qualité du championnat », ça remet un peu les choses en place, parce qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent la Ligue 1. Mais quand vous prenez un Watford, Brentford, en Angleterre, ou n'importe quel petit club,
c'est pas mieux qu'un match,
de Ligue 1.
Par contre, c'est vrai qu'on a gagné qu'une seule, enfin, deux Coupes d'Europe, une seule Ligue des Champions et une Coupe des Coupes. Voilà.
Notre grand handicap, c'est ce manque d'histoire, voilà.
Ouais, c'est ça. C'est ce manque d'histoire, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à gagner.
Cela dit, quand vous prenez des championnats comme Angleterre, l'Espagne, l'Allemagne, tous les week-ends, les matchs entre eux, ce sont des quarts de finale de Coupe d'Europe.
Ouais.
Alors qu'en France, malheureusement, on a le PSG qui est très haut.
Et c'est tout.
Et manque 3-4 clubs.
Est-ce que ce n'est pas ce qui manque justement au foot français? On a connu ça aussi avec Lyon. Hein.
Mais oui. Hein, mais oui.
Et nous, par contre, on est issus des années 90 où il y avait de la concurrence dans les clubs français. Hein. Il y avait 4-5 clubs qui rivalisaient. Auxerre, Nantes, Monaco, Bordeaux, Marseille, Paris Saint-Germain qui se battaient entre eux. Ce qui expliquait qu'on avait régulièrement 3-4 clubs français en quart de finale, voire même
bien sûr.
Alors, justement, la grosse déception pour cette saison, c'est Marseille, 8e, 50 points. Depuis, donc Marseille ne jouera pas de Coupe d'Europe.
C'est quand même incroyable.
Ça fait quelques années quand même.
Ah oui, ça fait quelques années, et puis c'est incroyable, quoi. Ouais. Pas normal qu'une équipe comme Marseille ne soit pas européen, quoi. C'est pas normal.
Ah oui, ça fait, je crois, une bonne vingtaine d'années que Marseille ne fera plus de Coupe d'Europe.
Oui, mais ça aurait été même une Ligue Europa, ça aurait été bien.
Oui, oui. C'est quoi le problème de cette équipe de Marseille? C'est comme Lyon, c'est des gens qui viennent, qui ne connaissent pas grand-chose au foot, qui font du business. Longoria, ils vendent des joueurs pour faire du business.
Oui, et puis il y a beaucoup d'instabilité au niveau de la direction. Je ne sais pas, je ne suis pas dans les hautes sphères marseillaises, mais ce n'est pas un club qui est très stable à l'intérieur.
Ça a toujours été ça a toujours été un club particulier quand même. Hein.
Un peu particulier.
Ouais. Alors, il manque peut-être un Bernard Tapie ou un Pape Diouf.
Il manque peut-être un Pape Diouf, oui.
Ouais, c'est ça.
Ou un Bernard Tapie,
oui. Ouais.
Avec d'autres... D'autres objectifs.
Voilà. Alors, 9e, Reims, 47 points. Reims qui avait fait un bon début, qui a eu une fin de saison un petit peu difficile.
Oui, et puis il y a eu l'histoire avec son entraîneur
trois jours avant la fin, l'immobilier.
Oui, un très bon entraîneur qui s'en va, tout ça. Bon, c'est pas très bien, mais bon. Mmh. C'est une équipe de milieu de tableau qui ne demande qu'à progresser. Mais bon.
Alors, autre déception.
Ça manque un peu d'ambition quand même, quoi.
Autre déception de cette saison, c'est aussi Rennes, 10e à 46 points.
Ça aussi, c'est incroyable, parce que Rennes avait quand même un effectif. Ils sont capables de faire des résultats assez étonnants, y compris en Coupe d'Europe. Mm-hmm. Et puis les voir s'écrouler comme ça, même dans des matchs qui étaient à leur portée, c'est quand même un peu gênant.
Oui, parce que c'est une équipe qui était assez constante dans les années précédentes, entre la 5e et la 6e place.
Puis à Rennes, il y a tout, il y a un public.
Il y a un budget, il y a un président qui donne de l'argent.
Un président, il y a un stade, il y a tout. Mm-hmm. Bon, faut espérer qu'un jour ou l'autre, le Rennes redeviendra le stade rennais qu'on a connu dans les années 50-60.
Oui, et puis ils ont gagné la Coupe de France, ne l'oublions pas.
Absolument.
Dernière Coupe de France en...
Contre le PSG.
En 2019.
Contre le PSG.
Alexandre, c'est 10 premières places, ça t'inspire un commentaire. Bon, Marseille sans Coupe d'Europe, Rennes aussi qui est un petit peu sur le déclin cette année.
Ouais, pour rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est que Marseille, c'est un contexte qui est extrêmement toxique.
Toujours été compliqué.
Il y a eu 3 coachs cette année, il me semble.
Oui.
Donc c'est toujours compliqué, dans
ce
story.
À
Lyon aussi, mais c'est différent. Mais c'est toujours compliqué dans ce story de la stabilité dans un tel club. Mais
il faut des forts personnalités, il faut des forts présidents.
Au vu de l'effectif, c'est quand même extrêmement décevant, comme Rennes, qui a un effectif taillé normalement pour jouer au moins la Ligue Europa, qui au final termine 10e parce qu'ils n'ont pas su faire la différence dans certains matchs, mais surtout contre les petits finalement, où ils perdent beaucoup de points. Et Lens, comme l'a dit si bien Guy, c'est qu'ils n'ont pas su remplacer leurs deux vedettes de l'année dernière, mais Eliwayi qui fait une saison très très mauvaise, très dans le ça des attentes, et au final voilà qui termine lancé septième, c'est ça?
Oui.
Septième, qui quand même accroche une petite coupe d'Europe. Donc voilà, ça permet peut-être de ramener un peu d'argent dans les caisses.
Mais un petit point d'avance sur Marseille quand même.
Ouais, seulement un petit point d'avance. Mais Marseille, c'est la fin de saison qui est catastrophique.
Ouais.
Et je pense que de jouer la Ligue Europa, ça les a pas aidés d'un point de vue physique. Donc voilà, rien d'autre à rajouter à part que c'est une déception pour surtout pour Marseille quand même.
Bon, Vanessa, toi qui connais bien Marseille, on va faire parler de ballon rond un petit peu. La déception, elle est quand même grosse. Donc quand même, c'est une ville énorme de football, quoi.
Bah oui, c'est une ville de football, et quand j'y étais en début avril, on sentait,
le week-end un dimanche du Classico en plus.
Voilà. Puis on sentait la ferveur malgré tout, même s'il y a des résultats qui sont pas satisfaisants. Il y a toujours la ferveur de cette ville, de ses habitants qui supportent vraiment leur champion. C'est une religion. Ce que je veux dire, c'est qu'à Paris, c'est assez rare de voir tout le monde réuni avec le maillot du PSG. Voilà. Enfin, bon, ça se voit dans certains endroits, mais là-bas...
Oui, mais à Paris, il y a beaucoup de locaux aussi, il y a beaucoup de provinciaux aussi.
C'est vrai,
pas forcément pour le PSG.
Mais c'est quand même flagrant de voir ce que ça représente. Et puis voilà, ils sont toujours derrière leur équipe. Et c'est ça, quoi. C'est une atmosphère, c'est quelque chose qu'on arrive à capter. Donc c'est sûr que c'est décevant. Maintenant, moi, ce que je voulais vous poser comme question, c'est est-ce que c'est plus pour qu'il y ait cet échec quand même qui se répercute d'année en année, est-ce que c'est plus une question de coaching, une question d'ego des joueurs? Est-ce qu'il y a tout ça à mêler? Il n'y a pas finalement une ligne directrice, quelque chose qui fait qu'on avance?
C'est-à-dire,
alors,
ça manque de ligne directrice.
En fait, il n'y a pas de ligne directrice.
C'est ça le problème.
Voilà.
Ouais, c'est ça le problème. Il n'y a pas de patron, il n'y a pas de ligne directrice.
Ouais, voilà.
Donc, fatalement, des choix sportifs qui sont mauvais.
Oui, c'est ça, voilà.
Parce que pour gagner, il faut aller dans la même direction.
Ouais. Voilà. Ça, c'est sûr.
C'est comme il y a à Lyon, à un moment donné, Grosso, et si tu ne le règles pas, la casette. Ça, c'est quand même une grosse erreur, quoi. Mmh. Et l'autre, il est arrivé, il a pris la casette tout de suite, comme patron. Hein.
Mmh. Alors, 11e, c'est Toulouse, 43 points. Bon, Toulouse à son niveau, Guy.
Ouais, il est à son niveau.
Ils ont fait la Coupe d'Europe quand même cette année.
Belle équipe, bon, équipe. Hein, belle équipe avec un attaquant, au moins, que j'adore. C'est le néerlandais Dalinga.
Ah ouais, Dalinga.
Moi, je trouve ce type terrible. Mmh. Il mériterait de jouer dans un autre club, mais enfin, il est très bien à Toulouse. Hein.
Bon, enfin, Toulouse, ils sont contents, ils ont gagné la 6e Coupe d'Europe de rugby ce week-end. Donc,
ah
ouais,
là aussi, tiens.
Ouais.
Là, il y a une ferveur au niveau.
Ah bah là, oui. Ah, c'est une ville de rugby, Toulouse.
Au niveau du rugby, c'est pareil que Marseille.
Ah oui, c'est l'équivalent de Marseille pour le foot, hein. Ouais, c'est sûr.
Pour voir l'ovation qui leur a été réservée, j'ai vu ça à la télé, c'était fou.
C'est génial.
Alors, le 12e, c'est Montpellier, ça fait 41 points. Montpellier, ça fait quelques années, ils sont dans la deuxième moitié de tableau.
Ouais.
Attention quand même.
À un moment donné, il flirte avec la descente.
Attention quand même, pour les prochaines années.
Ouais, il faut faire attention.
Ouais. Qu'est-ce qui manque un petit peu de...
Qu'est-ce qui manque, je sais pas.
Loulou Nicolas.
Peut-être qu'il manque un peu d'argent.
Ouais, puis Loulou.
Pour recruter.
Ouais, Loulou Nicolas.
Ah, il manque Louis Nicolas, mais pas tout à fait d'accord, parce que Laurent Nicolas,
c'est pareil,
que je connais un peu, c'est un mec très bien et qui gère bien le club. Peut-être qu'il n'a pas les moyens pour faire un club de haut de tableau.
C'est ça. Allez, le 13e, là aussi, petite déception, Strasbourg, 13e avec donc 39 points.
Ouais, avec le parrainage.
Il y a aussi des problèmes là aussi,
le parrainage de Chelsea qui lui fait du l'ombre. Mm-hmm. Comme Chelsea n'a pas marché cette année, ça rejaillit un peu sur Strasbourg aussi.
C'est vrai qu'on était habitué à ce que Strasbourg fasse des saisons un petit peu mieux les années précédentes.
Un peu mieux.
Là, ça a été un petit peu compliqué cette année. Ouais.
Mais ils sont bien rattrapés finalement parce qu'ils étaient longtemps dans la zone rouge.
À la fin, ils sont rattrapés, ouais.
Alors, un autre club qui est souvent ric-rac depuis quelques années, il est 14e, c'est Nantes avec 33 points. Là aussi, c'est difficile de suivre le président Kita.
Hein. Là, il y a un problème, là encore. Là. Un problème. Je ne sais pas comment on peut. Ouais. Comment refaire avec Nantes le Nantes qu'il y avait.
Oh là, quelle belle école.
Ça a été une école de football fantastique.
Quelle belle école. Avec le retour d'Antoine Comboiré, en plus. Hein,
Antoine, c'est pompé de service. Hein. Ça fait deux fois qu'il ressemble la mise. Mais bon.
Le 15e, c'est Le Havre qui l'a échappé ric-rac avec 32 points.
Le Havre, c'est pas trop mal, ils n'ont pas fait l'ascenseur cette année.
Mais attention quand même, c'est
l'ambiance.
Bon, malheureusement, c'était prévisible que cette équipe se batte pour le maintien. Ils s'en sont tirés, ça a été ric-rac, mais attention quand même à ce qu'on va rappeler, Guy, le plus ancien club professionnel de football.
Qui, Le Havre? Le Havre, c'est le doyen. C'est le doyen.
Allez, on en vient au barragiste, le 16e CMS. Alors, avec 29 points devant Lorient, donc 17e, 29 points. Même nombre de goals à vrage. La seule différence, c'est que Metz a marqué un but plus à l'extérieur. C'est ce qui leur permet de jouer les barrages et d'éviter pour l'instant, éventuellement, la Ligue 2.
Ouais, le Lorient-Clermont a 5 buts.
C'est incroyable quand même. Hein. C'est incroyable. Hein.
Oui, c'est un peu incroyable. Il a manqué un but à Lorient, quoi.
Ouais, ouais, ouais. Hein? C'est quand même incroyable. Bon, Metz, malheureusement, c'est l'équipe qui fait souvent l'ascenseur.
Ouais, hein.
Ouais.
Et match de barrage contre la Saint-Etienne.
C'est du 50-50.
C'est pas gagné.
Ouais, c'est du 50-50. Ouais. Et puis, donc, Lorient, bah, malheureusement, qui va retrouver l'élite 2.
Lorient, ouais.
Qui avait fait une belle saison l'année dernière. Hein.
Ils avaient fait une belle saison, bien sûr. Mais comment ils ont été même dans le haut de tableau pendant un moment. Mais...
Bien sûr, ouais. Bah là aussi, ils ont perdu beaucoup de joueurs aussi.
Ouais, aussi.
C'est ça
aussi,
le problème. Aussi. Et puis le dernier, bah, 18e, c'est Clermont, 25 points. Bon, bah Clermont, ils ont été à des places honorables depuis quelques saisons. Puis cette année, c'était peut-être l'année de trop.
C'était un peu l'année de trop, absolument.
Ouais. Alors on va rappeler quand même, donc meilleur buteur, c'est Mbappé. C'est pas une surprise. Hein,
27 buts.
Ouais, 27 buts sur 9 matchs. Sur 29 matchs, il a un ratio de 0,93. Mbappé.
Ouais, ouais. Hein,
donc, et puis on l'a dit, donc Del Castillo de Brest, Gomez de Lille et Dembélé du Paris Saint-Germain, meilleur passeur.
Alors ce que j'ai vu, c'est que dans les meilleurs passeurs, dans les 5 premiers, il y a 3 joueurs du PSG.
Oui.
À eux 3, ils ont fait marquer 22 des buts.
Ah, ça c'est bien comme stat.
22 buts marqués par les 3 passeurs.
Mmh.
C'est-à-dire Dembélé.
Ouais.
Barcola et Mbappé.
Oui, Barcola et Mbappé, ouais.
À 3, ils ont fait marquer 22 buts.
Alors, Guy, il y a eu 826 buts dans ce championnat, donc à 18 clubs.
Tombe
ce qui
total.
Fait une moyenne de 2,70 par match. C'est une bonne moyenne quand même. Hein.
Tombe total, oui.
Ouais, c'est une bonne moyenne, mais je voulais juste rajouter quelque chose sur Metz.
Oui.
C'est Mikotadze qui.
Oui,
j'ai pas compris la gestion de Mikotadze parce
oui,
qu'il
moi,
il envoie à l'Ajax Amsterdam, il fait 6 matchs, il revient, on voit qu'il plante, etc. C'est, ils auraient dû le garder. Je pense qu'il aurait marqué suffisamment de buts pour lui permettre de se maintenir. Donc,
C'est le joueur phare de Metz et on parle de lui pour Marseille.
Ah, mais il doit partir. Si je suis lui, je pars, bien sûr.
Il a raison.
Alors, 1157 cartons jaunes, 69 cartons rouges. Un petit mot sur l'arbitrage, Guy. On en a très souvent parlé dans ce championnat.
Il y a eu une crise au niveau de la direction
très contestable,
d'arbitrage.
Hein. Ouais.
Des contestations, des changements de direction, etc. Je pense que l'arbitrage français...
Mais qu'est-ce qui se passe?
Ce qui se passe, c'est que...
On en avait parlé un petit peu avec Bruno Dorian.
On a peut-être donné trop d'importance...
À la VAR.
Et les arbitres sont un petit peu perdus, quoi.
Bon. Après, pour notre défense, c'est un peu pareil dans tous les championnats. Même les Anglais, ils ont fait signer une pétition pour annuler la VAR l'année prochaine. Les Espagnols, c'est une catastrophe, leur arbitrage. C'est un peu partout depuis l'arrivée de la VAR. Mais c'est sûr que chaque année, pour moi, on voit des supercheries qui n'existaient pas avant.
Oui.
Bon, ça, c'est un autre débat, mais voilà.
Ouais, c'est quand même... On pensait que ça réglerait beaucoup de problèmes, et puis finalement, ça fait des polémiques, même si ça enlève quand même certaines injustices. Hein.
Parce que des fois, il y a un fait de jeu qui est flagrant.
Oui, c'est ça le problème.
Et elle n'intervient pas. Alors on dit, mais tiens, pourquoi Pourquoi elle n'intervient pas?
Oui, non, c'est ça le problème. Alors, il y a eu 27 133
spectateurs.
Ouais, au niveau spectateurs, c'est bien, 27
133
de moyenne de spectateurs pour 306 matchs. Hein.
Bah, l'idéal pour l'équipe pour le championnat de France, ce serait une moyenne de 30 000, quoi.
Ouais, c'est ça. Bon. Ouais. Mais souvent, on était à 21, 22, 23 000.
Voilà,
là,
c'est bien,
27 000 quand même. Hein.
C'est pas mal.
Et puis, on a regardé un petit peu les stats un peu partout, à chaque journée. Il n'y a pas eu, même l'hiver, a pas eu d'effet négatif. Hein. On s'est rendu quand même au stade assez facilement. Voilà, donc c'était un beau championnat dans l'ensemble.
On s'est battu
pour les places d'honneur, on s'est battu pour la relégation. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de suspense pour le titre, mais ça,
non,
bon,
trop,
on y est habitué depuis quelques temps.
On est habitué, oui.
Très bien. Bon, 19h.
Si, il y a quand même.
Ouais, vas-y.
Il y a quand même une tâche.
Ouais.
C'est ce qui se passe avec les
hooligans. Oui, malheureusement, ouais. On l'a vu en Coupe de France et même sur le match du championnat. Hein,
Lyon-Marseille, Marseille-Lyon.
Ouais.
Voir un entraîneur quitter le quart sur une civière avec le sang partout. Moi, je trouve ça dégueulasse. Et je trouve ça honteux.
Oui.
Honteux.
Ouais, mais Guy...
Et ce qui s'est passé en plus au péage à côté de Lille. Mais c'est aberrant, c'est aberrant.
Mais dis, c'est pas un problème qui dépasse le cadre du foot.
Ça dépasse le cadre du foot, je suis d'accord.
Pas assez sévère, hein, voilà, c'est tout.
Ben, c'est-à-dire c'est un peu le reflet de la société. Ben, voilà. Je suis désolé de le dire. Ouais. C'est un peu le reflet de la société. On est dans une société de violence extrême. Et les gens ne s'en rendent pas compte.
Et on punit pas.
On ne punit pas. Eh oui, on ne punit pas.
Ah ouais. Voilà. Très bien. Allez, on va marquer la pause musicale.
Désolé de m'être énervé.
Non, mais c'est bien. Alors, j'ai pas l'intitulé de la musique, mais c'est pas grave. C'est toi qui as choisi le morceau. Hein. On va parler de jazz. Premier morceau, et ensuite, on reprend la deuxième partie de cette émission. On parlera de Ligue 2 et de National.
Absolument.
Bon Guy, c'était quoi le morceau de jazz hein?
C'était un morceau de Sonny Rollins qui s'appelle The Night Has Thousand Eyes.
D'accord.
C'est-à-dire c'est la nuit a des milliers d'yeux.
D'accord.
Et c'était l'indicatif de l'émission littéraire de Bernard Pivot.
Ah bah c'est bien, voilà. Vous lui avez rendu hommage il y a quelques semaines. Voilà. Grand passionné de
foot. Hein,
ouais, ouais.
Stéphanois
ouais.
De cœur.
Eh oui, en plus. Ouais, ouais. Et pourtant, il était plus près de Lyon.
C'est vrai.
Hein, bah, enfin bon. Allez, donc Ligue 2, 38e et dernière journée. On va rappeler aussi, pour être très complet, les résultats de cette dernière journée. Victoire d'Auxerre devant Concarneau 4-1. Angers-Dunkerque 0-0. Quevilly-Rouen qui bat Saint-Etienne 2-1. Je crois que les Stéphanois sont morts parce que du coup, bah, ils ratent la deuxième place. Ils vont devoir jouer les barrages. Machul entre Bastia et Paris FC 1 partout. Rodez a battu Ajaccio 2-0. Victoire de Caen devant Valenciennes 3-0. Laval qui finit l'année donc, en beauté en gagnant à Guingamp 1-0. Victoire de Bordeaux devant Pau 3-2. Victoire d'Amiens à Grenoble 2-1. Et enfin 3 et Annecy 1 partout. Alors, on a un beau champion de Ligue 2 qui remonte. Ça nous fait plaisir. C'est quand même une histoire de foot. Hein. Ils ont un passé.
Ça fait une ville de foot qui a fait la Coupe des Champions, etc.
Donc, premier avec 74 points. Devant deuxième, Angers, 68 points. Donc, ces deux équipes joueront la saison prochaine.
Absolument.
On l'a dit donc en Ligue 1.
Angers, je suis un peu surpris quand même parce que.
Ils ont eu un petit passage un petit peu moins bien à un moment. Hein.
Puis avec la descente et puis les problèmes qu'il y avait au niveau de la direction, etc., j'avais peur que Angers s'écroule un peu. Et ben non.
Alors donc Saint-Etienne, troisième avec 65 points. On l'a dit, ils joueront les barrages. C'est jeudi le match aller à Metz. Et donc match. À Saint-Etienne, pardon. Et match retour à Metz, donc dimanche.
Je vous dis pas dans quel état va être le chaudron.
Ouais, ça va être du 50-50. Hein. Et puis la quatrième, Rodez, 60 points. Rodez qui a gagné son match de play-off contre le Paris FC.
Eh oui.
1-1 et 3-2 au tir au but. Et puis le Paris FC qui est cinquième avec 59 points.
C'est marrant ça, le Paris FC qui est toujours à peu près à.
Alors justement.
Il y a un plafond de verre, quoi.
Ouais. Alors on va rappeler qu'en plus Saint-Etienne avait quand même gagné son deuxième play-off devant Rodez 2-0. Ça fait 4 fois que le Paris FC échoue en play-off.
Plafond de verre à passer, mais on n'y arrive pas. Quoi.
Ouais. Donc, devant Lens en 2019, à Grenoble en 2021, devant Sochaux donc en 2022, à Charletti, hein, comme à Lens c'était à Charletti. Ouais. Et puis cette année, donc à Rodez, comment on peut l'expliquer que le Paris FC, il manque ce petit quelque chose?
Justement, on en parlait tout à l'heure. Moi je suis très déçu.
En plus, c'est l'équipe qui a bien fini la saison parce qu'ils étaient souvent en milieu de tableau. Ils finissent bien la saison, malheureusement, à chaque fois, ils coincent au.
Mais oui, mais je pense qu'il y a un plafond de verre, hein, comme l'a dit Guy. Ça me fait mal de dire ça, mais une petite culture de l'échec, une petite culture de la lose.
Malheureusement,
Mais pour venir sur le match en particulier, le gardien, j'ai oublié son nom, c'est un 2003 en plus.
Tu vas le retrouver.
Cambadio, il fait un très bon match.
Ouais.
Il arrête en plus, il me semble, 2 tirs au but.
Ouais, enfin, la séance de tirs au but, il y a eu quand même pas mal de ratés.
Et c'est ça, ils étaient en balotage très favorable, et ils trouvent le moyen, malgré ça, de rater les pénaltys victorieux et donc de donner la victoire à Rodez. Et même, ils marquent un peu contre le cours du jeu. Au début, ils mènent 1-0, ils sont en montée. Enfin, ils réussissent à égaliser à la dernière minute. On se dit que c'est peut-être maintenant. Mais il y a toujours ce plafond de verre. Une équipe qui a du mal à produire du jeu, quand même, finalement.
Ouais. Et c'est pareil, on a vu l'occasion d'être à Charletti contre Lens en 2019, c'est pareil.
2019, c'était pareil.
Et devant Sochaux,
Romain Perrault qui tape le
pareil,
poteau.
On y était aussi, c'est le scénario catastrophe. Quoi. Je crois qu'ils prennent deux buts, un juste avant
coup
la mi-temps, l'autre juste sur la fin du match. Quoi. C'est, à chaque fois, il manque ce petit quelque chose. Ah ouais. Ce serait bien le club à Paris, Guy.
Ce serait bien, mais déjà en Ligue 2, il va y avoir de beaux derbys.
Oui.
Avec le Red Star.
Le Red Star, c'est bien. Donc, on va quand même dire ensuite que donc Caen est 6e avec 58 points, 7e Laval 55. Laval qui avait bien commencé puis qui a eu un gros coup de mou. 8e Amiens 53, 9e Guingamp 51, 10e Pau 51, 11e Grenoble 51. Bon, c'est le beau lavrage qui les a départagés. 12e Bordeaux 50 points. Bordeaux qui n'arrive pas à retrouver l'élite. Hein.
Non.
À retrouver l'élite de la Ligue 1.
Il y a aussi un problème. Il y a un gros problème.
Bien sûr.
C'est un problème, à mon avis, humain. Il y a un problème managérial aussi, parce que il y a quelque chose qui ne va pas dans ce club. Quoi. C'est pas normal qu'une équipe comme les Girondins, qui a été un fleuron du football français,
soit
englué dans cette Ligue 2 sans pouvoir réagir.
13e Bastia, donc avec 50 points. 14e Annecy, qui finalement, après la saison un petit peu difficile l'année dernière, a pu se maintenir, 46 points. 15e Ajaccio, 46. Et 16e Dunkerque aussi, 46. Donc là aussi, ça a été des. Voilà, au goal average. Et puis Guy, 4 clubs qui descendent.
Ah oui.
3, 17e avec 41 points. En 2 ans, 3 passent de la Ligue 1. À la nationale.
Ouais.
Comme Dijon l'année dernière, il y a 2 ans aussi. Hein.
Oui, Dijon. Ah,
ouais. c'est...
Il y a des clubs comme ça.
La Boulogne et puis Thonon et Lyon.
Et Sochaux.
Oui, Sochaux.
Et Sochaux.
Oui, mais enfin, Sochaux, c'était un administratif.
Oui,
aussi, hein.
C'est le point.
Ouais. Mais là, bon, malheureusement pour 3. Ensuite, donc, descendent et accompagneront 3 donc, en nationale. Quevilly-Rouen, donc, avec 38 points, qui est 18e. 19e aussi Concarneau, 38 points, club de Jean-Paul Olivier. Et puis 20e et dernier, Valenciennes avec 29 points, puisqu'ils ont récupéré les 3 points perdus sur tapis vert.
Voilà. Ouais, Valenciennes, c'est quand même surprenant. Parce que...
ouais. Bah, ça faisait quelques années quand même, on frôlait un petit peu la correctionnelle. Et le meilleur buteur, c'est Alexandre Mendy de Caen avec 22 buts. Alors justement, il y avait, on parlait du national. Le Restart va retrouver le national. Ils ont battu donc Épinal 4-2. Victoire de Martigues devant Nîmes 1-0. Niort qui va gagner à Avranches 3-1. Et puis enfin, donc nul entre Sochaux et Versailles 1 partout. Donc deux clubs, on l'a dit, montent en Ligue 2 la saison prochaine. C'est le Restart 65 points. Deuxième Martigues 59 qui coiffe Niort sur le fil. Niort 3ème avec 58 points.
Mais Martigues, faut pas oublier, j'en étais en Ligue 1. Hein.
Oui. Bah oui, il y a très longtemps.
Quelques années.
On était tout jeunes.
Il y a quelques années.
Voilà. À noter que Sochaux, donc Versailles, pardon, termine 9ème avec 47 points. Et puis il y a des grands noms, des grands clubs comme Nancy qui ont terminé 6ème avec 50 points. Et Sochaux, 8ème, 48 points. Ils reviennent de loin quand même, Sochaux.
De,
hein.
De très loin.
Oui, ils ont fait quand même une belle saison quand même. Parce que d'où ils reviennent
Oui, moi, Sochaux, c'est un petit peu mon crève-cœur parce que.
Bah oui, président Plessis, vous
avez bien connu. J'ai suivi Sochaux en Coupe de l'UFA. Et je peux
demi-finaliste, vous... hein.
Demi-finaliste, oui. Contre AZ-67, Alkmaar. Et bon. Et pourtant, ils avaient fait des choses merveilleuses cette année-là. Hein. Quand ils avaient éliminé la traque Francfort à Sochaux après avoir perdu 4-2 au Waldstadion. Et au retour, il gagne 2-0 sur un terrain qui était gelé. Et c'était 2 buts de Patrick Rivelli.
Ah ouais, le vieux Gaulois, le vieux Gaulois.
Ils avaient fait quelques exploits cette année-là. Mmh. Aller gagner à Boavista aussi.
Ouais.
Bon, bien, contre AZ, c'était un peu plus dur, là. Bon, la barre était... Donc... Et il y avait beaucoup de blessés.
Ouais.
À la finale, beaucoup
donc
de blessés.
On va espérer que cette équipe remonte assez rapidement dans les prochaines années.
Il y avait mon copain Stopira qui était...
Ah oui, il y a
Stopira.
Non, je voulais juste rajouter aussi, déjà le Red Star, on savait qu'il montait.
Oui,
donc,
ils ont gagné assez facilement.
Ouais, ils ont gagné facilement.
Ils ont même joué un petit peu roulis,
Oui, voilà, ils ont perdu 4 matchs d'affilée, donc ils se sont voilà. Mais c'est surtout en tant que Francilien, on aimerait voir Versailles monter. Ils avaient bien commencé l'année. Même l'année dernière aussi, ils étaient bons.
Oui. Il y a 2 ans, ils avaient tourné finale.
Voilà, oui, c'était il y a 2 ans et finalement ils terminent 9e. Voilà, bon, c'est rien d'alarmant non plus parce que c'est quand même très bien qu'il soit là, mais on espère que l'année prochaine, il finira.
Ce qui est quand même bizarre, c'est qu'il y avait Jean-Luc Caribard qui avait un projet qui est parti.
Peut-être que lui, il avait le projet, mais que
ça
n'a pas suivi après.
Ouais,
quoi.
C'est ça. Et on va rappeler que Diana de Marignane et Verrou Dayan de Avranches terminent à égalité, meilleur buteur, avec 15 buts. Il y a 6 rétrogradés. Villefranche-Beaujolais, Gaul FC, Avranches, Marignane-Gignac, Épinal et puis Cholet.
Ben oui.
Hein, parce qu'on a refondu les.
Oui.
Ouais. Et alors.
La réforme.
Ce qui nous intéresse, c'est qu'ils sont remplacés par 4 clubs de Ligue de National 2 qui remontent. Il y a Aubagne, il y a donc également donc Boulogne-sur-Mer et Bourg-en-Bresse, mais il y a aussi le Paris Atlético qui remonte donc la saison prochaine en National 2. Ils sont allés gagner donc à Angoulême 2-1. Ils finissent à égalité avec 48 points avec La Roche-sur-Yon, mais grâce au goal average particulier. Donc le Paris Atlético 13 remonte, donc c'est bien, on va avoir pratiquement 4 clubs dans l'élite parisienne, avec donc le Paris Saint-Germain en Ligue 1, le Red Star et le Paris FC en Ligue 2 et le Paris Atlético 13 donc en National et puis Versailles, effectivement club francilien qui est pas loin, espérons qu'Alexandre ça va pouvoir perdurer.
On espère. Et puis c'est aussi Fleury-Mérogis qui a bon, 4 points.
Oui, alors eux, ils peuvent peut-être monter, Fleury-Mérogis, à condition, parce que Bourg-en-Bresse a encore des petits problèmes financiers.
Ah,
si
okay.
si oui, Bourg-en-Bresse ne peut pas repartir, Fleury qui arrive pratiquement toujours deuxième chaque année depuis au moins, je crois, 4 ou 5 ans,
mais
Fleury va peut-être
monter,
en finir monter. Voilà, peut-être. Tiens, un petit mot sur les féminines, Guy. Le foot féminin, c'est bien la ligue professionnelle avec Jean-Michel Aulas là, qui se crée.
Moi, je pense que c'est très bien. Ça va peut-être booster un petit peu le foot féminin en France parce que malheureusement, il y a de très belles équipes, mais a priori pas très soutenues.
Bah, le problème, c'est qu'il n'y a que deux grosses équipes, quoi. C'est Lyon et le Paris Saint-Germain. D'ailleurs,
Paris à pied,
un petit tour en dessous quand même. Paris
oui, mais
FC,
bon, encore en demi-finale contre. Oui.
Alors justement, on va rappeler les demi-finales. PSG, PFC, c'était.
Ils ont quand même éliminé des gros clubs.
Oui.
Hein. Paris à pied a éliminé le Bayern.
C'était donc 2-2, et puis au tir au but 5-4 pour le PSG, Lyon qui a écrasé Reims 6-0, et puis bah, la troisième place, le Paris FC a fait match nul avec Reims un partout, mais s'est imposé 4-2 au tir au but, et puis victoire de Lyon pour la finale contre le PSG 2-1. Le problème, c'est que les 4 premiers, c'est le reflet de la saison régulière. Quoi.
Oui, complètement, tout à fait.
C'est peut-être ça aussi le problème.
Oui, ça reste un petit peu... Il y a un bloc de 4, et puis...
Alors, Paris Saint-Germain, on va rappeler quand même gagner la Coupe de France en battant Fleury 1-0. Par contre, Lyon n'a pas pu gagner contre Barcelone sa finale de Ligue des Champions, Alexandre 2-1. C'était pas la soirée des Lyonnais. Hein.
C'était pas la soirée des Lyonnaises, mais en Coupe de France et battu en
Ligue des Champions féminine.
Ah oui, non, c'est sûr que bon, les Lyonnais
2-0. Hein,
2-0. Aitana, la Ballon d'Or qui a marqué, il me semble, c'est juste avant la mi-temps. Et Alexia Putellas, l'ancienne Ballon d'Or aussi, qui a marqué à la toute fin de match, à la 98e, quelque chose comme ça. Et donc j'ai envie de dire la logique est un peu respectée parce que finalement les Barcelonaises enchaînaient 3 finales d'affilée
finales en 4 ans. L'Espagne est quand même championne du monde, elle a gagné la Ligue des Nations, c'est actuellement le football féminin qui domine le monde.
C'est ça. Ce qui est un peu regrettable finalement pour le football français, c'est qu'il y a eu Lyon-Paris en demi-finale, mais bon, finalement, rien de...
Est-ce qu'il faut faire ces play-offs, même chez les féminines, Guy? Parce que finalement, on retrouve la saison régulière. On a eu Bon Pastor qui n'était pas très contente. C'est un petit peu justifié quand même.
Elle n'a pas tort, parce que bon, on ne voit pas pourquoi Lyon a disputé des play-offs.
Alors qu'ils ont survolé le championnat.
Le championnat depuis le début.
Allez, on en vient très brièvement au championnat étranger. C'est vrai qu'en Angleterre, ça a été le championnat le plus serré. C'est Manchester City qui a gagné, Manchester United qui gagne la Coupe de la Ligue et la Coupe d'Angleterre, et Liverpool qui remporte la Coupe de la Ligue. Voilà. Donc, c'est un petit peu surprenant quand même. Manchester United qui gagne la Coupe d'Angleterre.
C'est très surprenant.
On aurait joué un doublé plutôt de Manchester City.
On aurait vraiment joué un doublé de Manchester City.
Ouais, ouais.
Et Kobbie Mainoo qui a encore frappé de son talent, le petit jeune de Manchester United. Puis, parce que Manchester United, il faut le rappeler, fait une saison catastrophique finalement.
Que ce soit en championnat ou 7e,
donc que ce soit en championnat ou en Coupe d'Europe.
Ils sauvent leur saison avec cette Coupe d'Angleterre.
Voilà, c'est ça, c'est que finalement ils sauvent leur saison, donc ils avaient un peu tout à jouer. Et puis ils ont réussi, donc bravo.
Ouais. Et Liverpool qui flanche un petit peu sur la fin, qui se console quand même avec une Coupe de Ligue.
Et voilà, ça c'est décevant aussi pour les adieux de Jürgen Klopp, voilà, Liverpool qui s'est écroulé sur la fin de saison, qui faisait quand même une bonne deux tiers de saison, qui jouait le titre, mais finalement qui s'est écroulé. Donc,
Bon, ça a été le championnat le plus serré, parce que tous les autres, pour la Ligue 1 française...
Vous connaissez les champions.
Oui, il n'y a pas eu de suspense, notamment en Allemagne, doublé de Leverkusen, et championnat. Incroyable, invaincu, 28 victoires, 6 matchs nuls. Et 51 victoires sans défaite à l'arrivée.
C'est une saison incroyable,
sans défaite,
mais finalement qui a un petit goût amer.
Alors justement, on va en parler, donc Ligue Europa, victoire de Bergame 3-0, pas une match, Guy.
Je voudrais revenir...
Oui, c'est le collectif qui a gagné, de Bergame.
Oui, c'est vrai. Je voudrais revenir sur la défaite de Marseille, 3-0 contre l'Atalanta.
Mais c'est le même genre de match.
Le lendemain, j'ai lu, il y avait deux classes d'écart. Bon. Ces gens-là qui écrivent des trucs comme ça, sans prendre de recul, ils avaient oublié que l'Atalanta avait mis une raclée à Liverpool.
3-0,
qu'après, en finale, elle met 3-0 à un club comme Leverkusen, qui est invaincu. Alors dire qu'il y avait deux classes d'écart avec Marseille, non.
Non, parce mais c'est surtout qu'il n'y a pas eu de match.
S'il n'y a pas eu de
match retour.
S'il y a un partout, Marseille avait réussi à marquer son but, Peut-être que ça aurait changé beaucoup de choses.
Ah,
alors faut arrêter tout de suite, il y a deux classes d'écart. Ça, c'est tous les gens qui crachent sur la Ligue 1, ça, voilà, c'est pareil.
C'est
voilà.
La jeune génération de journalistes voilà. Qui...
C'était pas ouais. La même génération que moi.
Ouais. Un petit mot quand même sur ce succès de Bergame. C'est quand même le succès d'un collectif. Il termine
7e
du championnat italien.
Oui.
Bon, il gagne largement devant Leverkusen. C'est le même type de match que contre Marseille. Un match retour 3-0. Marseille n'a pas existé, mais Leverkusen non plus.
Oui, ça, succès d'un collectif bien rodé, ouais, mais ouais, surtout ouais. Une grosse performance d'Ademola Lookman, finalement, qui
oui,
a mis un triplé.
Oui, c'est l'homme du match. Hein.
Triplé et surtout trois buts. Ouais, je ne sais pas si vous les avez vus.
Trois jolis buts.
Trois buts extraordinaires.
Dans un match comme ça,
vraiment tout. Magnifique.
Ah ouais, ouais.
Mais c'est celui qu'on peut critiquer, c'est un peu Xabi. Même bon, critiquer c'est un grand mot, mais Xabi Alonso n'a pas fait les meilleurs choix tactiques durant ce match. Il a fait rentrer un petit peu à la fin certains joueurs. Donc voilà, mais je pense qu'il y a peut-être eu un excès de confiance de Leverkusen qui
très,
s'est dit.
Très possible.
Qui s'est dit
possible.
On n'a pas perdu un match. En plus, vous savez, ils égalisaient à chaque fois la dernière minute pendant des
oui, oui,
pendant
en,
beaucoup
en
de
Allemagne,
matchs.
Oui,
voilà, en Allemagne,
la face au dernier moment.
Voilà,
ouais.
Ils ont pu se dire ça, mais au final, il n'y a pas eu photo sur la finale et l'Atalanta mérite amplement le succès.
C'est dommage parce que l'équipe de l'année, c'était Manchester City l'année dernière qui avait fait le triplé. Hein. Ça aurait pu être les Leverkusen cette année, même s'ils font un doublé comme le PSG. Mais enfin, s'ils avaient fait le triplé, c'était l'équipe de l'année, quoi.
Peut-être, oui.
Ouais.
Bah oui, ça aurait été l'équipe de l'année, oui, c'est sûr.
Mais non, ils ont été
surtout qu'on ne les attendait pas. Hein.
Même en Coupe d'Europe jusqu'à la finale.
Oui, 51 matchs sans défaite sur l'ensemble de la saison.
Pourtant, quand vous voyez le collectif ouais. du Bayern et celui de Leverkusen, vous dites y a quand même quelque chose. Quoi.
Bah oui.
C'est que Alonso a réussi à faire un amalgame de cette équipe. Ils en ont fait un collectif qui est impressionnant.
Mm-hmm. Mais...
Oublier que le Leverkusen a déjà ouais. été en finale de Ligue des Champions. Hein.
Oui, il y a très longtemps.
Contre ouais, le Real.
Oui, ouais, ouais, avec un beau but Zidane. Ah ouais, super beau but Zidane. D'ailleurs, est-ce que c'est pas l'année de la victoire du collectif? Parce que Dortmund qui arrive en finale de Ligue des Champions, c'est aussi la victoire du collectif. Hein.
C'est une victoire du collectif, bien sûr. Hein tout à fait.
On a peut-être un petit peu tendance parfois à l'oublier. Hein.
Ben oui, bon.
Hein
moi, je ne veux pas revenir sur la demi-finale
ouais.
du PSG. Pour moi, c'est une faute professionnelle qui
bien
se
sûr.
Produit.
Alors, bon. Bien sûr.
Alors que c'est pas normal
bien sûr.
Que le PSG, qui a toujours battu Dortmund, et au moins au Parc des Princes, écoutez, de perdre 1-0 à domicile,
non, puis la façon dont
avec l'équipe qui avait sur
non,
le terrain.
Les occasions qui ont été manquées, quoi, qui ont été gâchées. Quoi.
Parce que c'est pas la défense.
C'est impardonnable.
La défense de Dortmund, elle va en prendre contre le Real. Hein.
Ouais, ouais.
Bon,
alors, on va quand même revenir aussi justement en Espagne. Le Real qui a largement donc survolé le championnat qui s'impose une nouvelle fois. Et l'Atlético de Bilbao qui gagne, lui, la Coupe d'Espagne. Et puis en Italie, c'est l'Inter qui s'est là aussi largement imposé. Et la Juventus, justement, qui a battu Bergame en finale de Coupe d'Italie.
Avec un grand Rabiot
oui.
cette saison.
Ouais.
Un très grand Rabiot.
Oui,
ils perdent leur entraîneur.
Ouais. Bah oui. Bah
ils
oui.
perdent leur entraîneur et on parle de Thiago Motta pour remplacer Massimiliano Allegri. Mais ce que je voulais dire, c'était sur le championnat, enfin sur l'Espagne en général.
Oui, parce que tu connais bien l'Espagne, toi.
Moi, je regarde beaucoup de matchs espagnols, mais le Real finalement n'a pas volé son titre. Loin de là, les joueurs de la saison sont clairement madrilènes. Et l'Athletic Bilbao qui fait une très très bonne saison,
ouais.
qui même en championnat a fini dans les places européennes.
Ouais, ouais. Il gagne la Coupe d'Espagne en plus.
Il gagne la Coupe d'Espagne. On avait beaucoup critiqué le championnat espagnol l'année dernière parce que c'est vrai que d'un point de vue jeu, c'était assez morose.
Oui, il y a quand même des grands noms qui sont partis.
Il y a des grands noms qui sont partis.
Deux joueurs, Benzema, Ronaldo,
voilà.
Messi, quand même. Bon, voilà.
Et même en Coupe d'Europe, ouais, mis à part le Real, c'était très compliqué. Mais là, cette saison, finalement. On a eu droit quand même à des bonnes équipes et aussi une course à l'Europe assez, assez intéressante avec Gérone aussi qui a fait
oui,
une très bonne
oui,
saison.
Une bonne révélation.
Très bonne révélation.
Troisième, je crois, il termine.
Troisième, ouais, exactement. La Real Sociedad.
Le Brest espagnol.
Voilà. Ouais. Le Brest espagnol. La Real Sociedad aussi qui a fait une très bonne première partie de saison. Le Real Betis aussi.
Ouais.
Et voilà.
Alors tiens, justement, je voulais demander à Guy. Guy, actuellement, on est en train d'essayer de rétribuer les droits TV. Mbappé qui va partir. Est-ce qu'on peut être inquiet pour les diffuseurs? Parce que pour l'instant, ça se bouscule pas au portillon, c'est moins qu'on puisse dire.
Non, bon.
Peut-être Bein Sport.
Oui, oui, il y a Bein Sport qui est bien placé, mais ils font durer le plaisir un petit peu parce que bon. Mmh. C'est tactique, hein, ils ont raison.
Ouais.
Mais je pense que le milliard qu'espérait la Brune, ça, il n'y en aura pas. Hein.
Ouais, ouais. Non, parce que justement, on parlait qu'il y avait un petit peu moins d'attractivité en Espagne. En France, ça va être pareil. Hein.
Peut-être.
Avec Mbappé qui s'en va,
Ces
grands noms qui sont partis ces dernières années.
C'est pas la qualité du championnat qui va faire ça. C'est...
Ouais.
Même avec le départ de Mbappé, il y aura encore des matchs spectaculaires. Mais bon, c'est vrai que quand on perd Messi, Neymar, Mbappé...
Il faut dire, les gens viennent au stade aussi pour ça.
Il n'y a pas beaucoup de pays qui pourraient se relever.
Les gens ils viennent aussi au stade pour voir ces joueurs-là.
Et est-ce que malgré ça, il y a quand même un dynamisme du foot français? C'est-à-dire que même s'il y a des grandes stars qui partent, en termes d'audience, on arrive quand même à maintenir des belles audiences.
C'est-à-dire
qu'il y a les creux et les... Enfin, c'est ça, c'est plutôt les écarts que...
Oui,
évidemment que le foot, c'est le sport numéro un, mais ce que je me demandais, c'était un peu ça.
Non, puis le championnat de France, qu'on le veuille ou non, c'est un appel d'offres important pour les diffuseurs et aussi pour le public. Alors, même s'il manque des stars, il y aura toujours des gens pour regarder le championnat.
Alors,
mais je ne pense pas qu'on arrivera à des sommes qui ont été... celle qui était annoncée par le président là-bas.
Ouais, non, je pense que ça, c'est complètement surréaliste. Hein. Ouais.
À moi, mais j'y crois pas.
Alors, tiens, justement, Vanessa nous a fait une petite remarque. Elle voulait intervenir sur ce qui s'est passé en Grèce avec Stéphanie Frappard.
J'ai vu l'info.
Bah oui, mais bon, en Grèce, c'est toujours chaud, hein, que ce soit au foot ou sur le basket. Toujours.
Stéphanie Frappard a dû être sortie par les forces de sécurité là sur un match. D'un championnat grec, notamment opposant l'Olympiakos. Apparemment très chaud parce qu'ils ont contesté son arbitrage et ça s'est mal fini.
Ça, malheureusement, c'est fréquent. Quoi.
Mais c'est vrai que...
Qui a décidé que Stéphanie Frappard devait aller arbitrer un match en Grèce? Bon, qu'elle aille partout ailleurs, mais en Grèce...
Qui décide ça?
Je
la Fédé, non? C'est pas la Fédé?
Je pose
la question.
Ah non, c'est pas la Fédé de football française.
Internationale ou non?
Non, c'est la Fédé grecque qui a demandé.
Oui, qui a demandé, ouais.
Un arbitre étranger, peut-être.
Mais alors, ça veut dire que peut-être, je fais une supposition parce que je suis loin d'être une experte là-dessus, peut-être que aussi, puisque comme tu le soulignais, avec les arbitres grecs, ça pose évidemment aussi problème. Est-ce qu'ils se sont dit, en prenant
pays,
peut-être...
L'arbitrage, c'est compliqué.
Oui, non, mais peut-être en prenant une arbitre étrangère, ça va peut-être mieux se passer. Bon, c'est une question qu'on peut se poser. Moi, je ne peux pas y répondre.
Non, mais c'est toujours chaud, hein, par nature, de toute façon, que ce soit le foot ou le basket.
On voit une femme. Une femme dans l'enfer de l'Olympiakos.
Justement.
C'était Pana ou l'Olympiakos?
Olympiakos, il me semble.
Olympiakos. Alors justement, Guy, il y a deux finales cette semaine. Il y a Fiorentina Olympiakos et puis Real Madrid Dortmund donc samedi. Ouais. Finalement, les Italiens ils peuvent gagner deux coupes d'Europe cette saison. Et puis les Real devra accrocher une 15e étoile.
Oui, je pense que oui.
Malgré le collectif de Dortmund. L'expérience du Real fera la différence.
C'est l'expérience, oui, c'est ça.
Ouais. Bon, Alexandre, je te parle du Real. Mais là, t'es le journaliste.
Le journaliste qui parle. Journaliste qui parle donnerait, parce qu'on aime bien faire les pourcentages, donnerait quand même 70% de chances de victoire pour le Real Madrid. Parce que, en fait, le truc, c'est que même si Dortmund gagne 2-0 à 10 minutes de la fin. Rien n'est impossible pour le Real. Donc, à partir de ce moment-là, on a envie de donner la victoire au Real Madrid, forcément.
D'ailleurs, il y a quelque chose d'implacable dans le jeu du Real, qui finit toujours par marquer le but, qui fout en l'air les adversaires.
C'est ça.
On l'a vu contre Manchester City. Ça a été une démonstration, quand même.
Allez, on va donc marquer la 12e pause musicale. On retrouvera notre ami Stéphane donc ensuite au téléphone. Et après, on finira avec la page olympique et le journal des sports. La 2e pause musicale, là toujours donc sous le choix donc musical de notre ami Guy.
So mean, you're the meanest old woman that I've ever seen. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say? Me this away, cause I'll be back on my feet someday.
Don't care if you do, cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Bon Guy, c'était quoi ce morceau là, le nom de ce morceau là, le titre de ce morceau?
Ce morceau là?
Oui, oui.
Hit the Road Jack.
Richard, Hit the Road Jack.
Ah ouais, grand grand monsieur.
Un des grands succès quoi.
Voilà. Allez, on a notre ami Stéphane
J'ai
de Zonclos.
Je vais mettre What Day Is parce que tout le monde le connaît pas.
On a notre ami Stéphane de Zonclos donc au téléphone. On l'entend régulièrement chez l'ami Jacques Vendroux sur Europe 1. Il est aussi tous les semaines donc sur mon Paris FM. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Stéphane de Zonclos. Bon, par contre, Stéphane, on l'a pas au téléphone pour l'instant. Alors, ce qu'on va faire, on va passer le journal des sports et on va voir Stéphane. Allez, le journal des sports. Il y a eu une riche actu sportive, hein, donc Alexandre, ce week-end. Hein.
Riche actu, et je suis content de vous la commenter. Donc, on commence ce journal des sports avec le début donc de Roland Garros. Ouais. Et déjà quelques beaux matchs et quelques surprises. Le Français Richard Gasquet a obtenu son billet pour les 32e de finale. Nishikori a gagné, Carlos Alcaraz aussi. Et Stan Wawrinka a remporté son match face à Andy Murray. La grosse nouvelle de la journée, c'est la défaite de Rafael Nadal. L'Espagnol quitte déjà le tournoi après son premier match, une défaite 3-7 à 0 face à Alexander Zverev.
C'est vraiment la fin d'une époque là.
C'est la fin d'une époque, c'est triste, hein, après Federer.
14 fois donc 14 fois. Vainqueur de Roland Garros, comme le Real hein, qui a gagné 14 fois Ligue des Champions, mais lui il n'aura pas une 15e.
En plus, c'est un grand
étoile,
fan du Real en plus.
C'est ça, donc c'est pour ça que je fais le rapprochement.
Oui.
Après, vas-y.
Oui, moi j'ai vu le match hier entre Gasquet. C'est incroyable quand même de le voir toujours là. Et puis il a gagné ce match. Et puis tu vas nous donner, je pense, les autres résultats parce qu'on a eu d'autres Français aussi qui se sont qualifiés. C'est
donc Caroline Garcia,
Caroline Garcia et Chloé Paquet qui ont respectivement remporté leur match et sont qualifiés pour les 32e de finale. Ouais. Ce soir, c'est au tour de Gaël Monfils de faire son entrée à 20h15 face au Brésilien Seibot Weil. Donc on espère la victoire de Gaël Monfils. On poursuit ce journal des sports et on passe en sport mécanique avec le Grand Prix de Formule 1 de Monaco. Le Grand
Prix
de Monaco.
Il y avait des vedettes, Mbappé y était.
Beaucoup de vedettes, dont Kylian Mbappé, qui a mis une story justement après la victoire de Charles Leclerc, enfin Monégasque, qui remporte son Grand Prix national. Bonne semaine pour Ferrari, puisque Carlos Sainz termine lui 3e de la course, Oscar Piastri finit 2e, et Max Verstappen termine 6e après avoir raté ses qualifications samedi. Hier se déroulait également la 21e et dernière étape du Giro d'Italie. Sans surprise, c'est Tadej Pogacar qui termine premier au général, suivi par Daniel Felipe Martinez et Geraint Thomas. A noter que le meilleur français du classement, c'est Romain Bardet, sans surprise. Il termine le tour 9e.
Ouais, il va être difficile à battre sur le Tour de France, Pogacar. Hein. Ouf.
Ouais, il remporte tout, là, Pogacar.
À la Merckx. Hein.
Voilà. Ouais. En rugby,
il écrase tout
en ce moment. Ouais. On parlait de rugby tout à l'heure, et c'est le Stade Toulousain qui a remporté la Coupe d'Europe en dominant Leinster 31-22. La performance XXL de Ross Bryan permet aux Toulousains de remporter leur 6e titre de champion d'Europe. Pour ce qui est du challenge européen,
vas-y, continue,
ce sont les Sharks qui remportent leur finale face à...
Mais vas-y, continue.
Ok, bah pour ce qui est du challenge européen, en tout cas, ce sont les Sharks qui remportent leur finale face à Gloucester 36-22. Les Sharks, justement, qui sont devenus la première formation sud-africaine à remporter la Challenge Cup.
Ouais, alors, on disait que le Real Madrid, c'est l'équipe qui domine l'Europe du football.
C'est à Toulouse.
Pour le rugby, c'est Toulouse. Hein.
C'est Toulouse. Ouais. C'est Toulouse, ouais. Et au grand plaisir pour nous, Français. Ouais. Demain se joueront également en basket les suites des demi-finales de play-off en Betclic Elite.
Allez Paris.
Allez Paris qui affronte Lyon Villeurbanne. Ouais. On rappelle le score pour l'instant, c'est un partout. Ouais, comme Monaco et Bourg-en-Bresse qui se neutralisent pour l'instant.
Alors on va rappeler que ce sont des matchs en 5 manches.
Voilà, oui, en cinq manches, c'est ça. C'est pas comme en NBA où c'est 7 manches.
C'est 3 au début et c'est 5 après quand on arrive en demi-finale.
Exactement. On bascule en handball à présent et la course au titre est toujours aussi passionnante entre le PSG et Nantes. Il reste une journée de championnat désormais et les Parisiens ne sont qu'à un petit point des Nantais. Les Nantais qui n'ont plus le droit à l'erreur et doivent gagner leur match face à Nîmes. Les Parisiens, eux, affronteront le Pays d'Aix. Donc normalement, ça devrait plutôt le faire pour les Parisiens qui devraient remporter le championnat. Et puis deux matchs extrêmement importants pour Créteil et Évry qui se battent pour le maintien. Créteil 14e affrontera le Cesson-Rennes 11e lors de la dernière journée et Évry 15e se coltinera le Saran-Loiret 13e à seulement un point devant eux. Chez les femmes, le championnat s'est terminé ce samedi et c'est Metz qui finit champion de France à un point de Brest-Bretagne. Le Paris 92 termine 4e dernière Nantes et s'assure une place qualificative pour l'Europe. Les joueuses du Stella Saint-Maur finissent dernière 35e avec 35 points pardon, et joueront en division 2 malheureusement saison prochaine.
Alors c'est bien, on parlait des Coupes d'Europe, hein, on va quand même rappeler que le Paris Basket a gagné l'Eurocoupe, hein, c'est la seule équipe avec Toulouse à avoir gagné une Coupe d'Europe cette saison, puisque
absolument.
Au handball, Montpellier et le PSG ont été éliminés en quart de finale et Monaco a été aussi éliminé donc, et privé de Final Four en basket. Je pense que on l'entendait en off, je pense que cette fois-ci il est en direct sur notre antenne. Bonsoir Stéphane. Bon, alors décidément, on n'a pas de chance.
Moi, je voulais juste rajouter une petite
chose. Est-ce que Stéphane Dezenclos est là? On n'a vraiment pas de chance ce soir avec Stéphane.
Ah, il est là.
Oui, non ben oui. Moi, je t'entends, Stéphane, vas-y alors. Si on t'entend à l'antenne.
Bonsoir tout le monde. Un petit retour rapide pour dire que le score, tous ceux qui ont vu le match, je pense, en sont conscients. Le score ne reflète absolument pas la physionomie du match, hein, qui aurait pu être beaucoup plus long, même si finalement, au bout du compte, il y aurait presque pu avoir un miracle pour les Lyonnais et une égalisation. Sinon, ça a été largement. Bah, ça restera. Moi, je pense que ça reste une bonne saison de Ligue 1 avec des bonnes épopées des clubs français en Coupe d'Europe, un bon comportement des Français en Coupe d'Europe. Et puis, il n'y a pas eu de miracle en Rambas, si ce n'est que cette fin de cette dernière journée était quand même assez exceptionnelle. Il y a eu plein de rebondissements et tout, donc ça a été quand même assez assez intéressant, quoi. Voilà.
Oui, alors Stéphane, il y a quand même, on l'a dit avec Guy, hein, il y a quand même deux points noirs. Ce sont les incidents qu'on a pu rencontrer à travers donc des bus qui ont été caillassés et l'arbitrage qui a souvent été controversé cette saison.
Voilà, l'arbitrage, ça c'est je sais pas ce que vous avez dit, mais c'est de la nuit des temps. On peut faire, c'est dans la culture, on peut faire tout ce qu'on veut. Je pense que ça sera toujours. Contesté, c'est clair que c'est un point noir, mais quelque part on annonce quand même une petite révolution. Il y a eu du mouvement, il y a eu une prise de conscience. Effectivement, je pense que la principale progression qu'il doit y avoir, qu'il y ait toujours des erreurs, je pense qu'il y en aura toujours. Maintenant, c'est simplement effectivement de travailler beaucoup sur la cohérence des décisions. C'est pour moi en tout cas, c'est le gros point noir de l'arbitrage. C'est pas forcément de faire une faute d'arbitrage. Ça, il y en a eu depuis la nuit des temps, il y en a toujours. Mais c'est d'être cohérent, quoi, de pas qu'il y a la même journée de championnat, qu'il y ait une main qui soit sifflée dans un match. Après intervention du VAR par exemple, et puis dans un autre match à 200 km d'ici, exactement la même action qui n'est pas sanctionnée. C'est ça qui est le plus rageant quand on est supporter de foot, c'est ce qui peut être le plus rageant en disant ça dépend, bien que avec la VAR justement on devrait enlever ce genre de choses qui était un peu avant qui pouvait exister avec l'interprétation humaine des arbitres. Donc voilà, je pense que...
Ouais, mais Stéphane, est-ce qu'on accepte l'erreur dans le foot?
Justement,
c'est ça la difficulté.
C'est pas forcément dans le foot, je pense que c'est en règle générale, c'est-à-dire que...
Encore plus dans le foot.
On accepte de moins en moins l'erreur, à partir du moment où on se donne les moyens de l'éviter, quoi. Et c'est vrai que finalement, psychologiquement, c'est exactement ce qui s'est passé. Avec la mise en place de la VAR, on a pensé, quoi qu'il arrive, on se donne les moyens d'éviter des erreurs. Quand on n'arrive pas à les éviter, ça rend encore plus dingue. Les gens, ça les rend encore plus exigeants, forcément. Donc, c'est ça, c'est ce qui se passe. Et comme je parlais tout à l'heure de cohérence, le pire, c'est quand il y a une absence de cohérence dans les décisions. C'est ça qui est le plus compliqué à gérer. Parce que, comme je le disais, une absence de cohérence, Philippe, on peut la comprendre quand c'est humain. Quand c'est une interprétation humaine, bah oui, parce que tous les hommes sont différents les uns des autres et tout. Mais quand c'est une interprétation avec des logiciels, des vidéos, qu'on regarde une fois, deux fois, des capteurs, des choses comme ça, c'est vrai qu'on l'accepte beaucoup moins, cette absence de cohérence.
Et les problèmes qu'il y a eu avec les bus, même si ça dépasse le cadre du foot, il y a peut-être aussi des cultures de supporters dans certains clubs à refaire.
Bah oui, ça, je veux pas trop m'aventurer là-dessus, ouais, mais je sais que ouais. Tu sais, il y a encore rappelez-vous Philippe le supporter par exemple de Toulouse qui est décédé, je crois que c'est dans un pays de l'Est, après une rixe dans un pays de l'Est avec
les contre le Partizan de Belgrade.
Voilà, contre voilà. Le Partizan de Belgrade.
Il y a des ça, Guy il peut très bien l'attester, ça va encore mieux que moi. Ça fait des années quand il y a certains clubs qui ne se... C'est même pas ce qui s'est passé là hier entre Lyonnais et Parisiens. Mais il y a des clubs qui, quand, mettons, Paris va aller jouer à Belgrade ou X club à Rome, des choses comme ça, les supporters, entre eux, par des codes, des messages et tout, se donnent rendez-vous avant le match, 2 heures ou 3 heures avant le match, pour faire une bataille de supporters, quoi. Donc ça, c'est des traditions qui existent depuis ça existe depuis tout le temps. Je me rappelle dans les années 90 et tout, on parlait de ça. Ils s'étaient donné rendez-vous. Alors, des fois, la police arrive à déjouer ce genre de choses. Bon, là, ce qui est plus incroyable, et dans le cadre de ce qui s'est passé hier avant la finale de la Coupe de France, samedi avant la finale de la Coupe de France, ce qui est plus incroyable, c'est que. Apparemment, il y a eu des grosses...
C'est de se retrouver ensemble sur une aire d'autoroute. Là, c'est quand même un petit peu bizarre.
Il y a quand même un gros pilé, je ne sais pas, des CRS qui n'ont pas accompagné là où il fallait, des bus qui étaient en avance, d'autres qui étaient en retard. Ce qui peut être un peu inquiétant, c'est quand tu sais que c'est un match depuis 2-3 jours qui est classé à très haut risque. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, les Lyonnais... qui sont quand même réputés pour être des supporters très très particuliers.
Oui, et on se rappelle du Paris FC en Coupe de France. Hein. Ouais. Voilà, on y était.
On y était. Oui.
Mm-hmm. Et les Parisiens, c'est pas forcément non plus des enfants de cœur. Donc on le savait, c'était un match donc classé à très haut risque pour ça. Et puis finalement, ils n'ont pas été capables d'éviter ce genre de choses, quoi. Mm-hmm. Alors que quand on regarde bêtement. Le problème, on se dit d'accompagner 20 quarts sur X kilomètres dans les endroits sensibles, on va dire, ça paraît pas non plus être quelque chose d'insurmontable, quoi. Donc, c'est vrai qu'on se pose plutôt la question là. Maintenant, la bêtise des supporters et le fait de cette haine, cette espèce de duel, de conflit, de face à face, ça existe depuis tout le temps. Quoi,
absolument.
Voilà.
Alors, on va à nouveau s'intéresser au jeu. La finale donc de Ligue Europa, victoire de Bergame 3-0. C'est la victoire d'un collectif, Stéphane. Ah oui, quand même. Malgré Lookman. Hein.
Bien sûr, forcément. Mais de toute façon, c'est un peu... C'est quand même un match, pour moi en tout cas, qui est très difficile à analyser. Parce que c'est la victoire
Il y avait une seule équipe, c'est tout. Comme face à Marseille. Voilà.
C'est la victoire d'un collectif, mais le Bayern, c'est un collectif aussi.
Ouais, mais là, ils n'ont pas existé, hein, malheureusement. Voilà.
Non, mais tout à fait d'accord. Mais si tu avais eu le même résultat, par exemple, contre le Real Madrid, contre le Paris Saint-Germain, contre Manchester, quoi, des équipes qui ont des grosses stars et tout, tu dirais c'est un collectif qui a été plus fort que les stars.
Ouais, comme Dortmund contre le PSG, hein, pareil.
Voilà, ouais. Et si tu veux, c'est finalement, c'est dur de dire ça parce que quoi qu'il arrive, ça aurait été la victoire du collectif. Si le Bayern avait gagné la Ligue Europa, ça serait historique. On dirait c'est un collectif exceptionnel. Et tout. Là, ils l'ont fait parce que il y a peut-être eu quelques erreurs de. J'aime pas dire qu'un coach a fait des erreurs, parce que si surtout quand c'est la coach qui réussit plutôt bien, c'est vrai qu'il a pas. Ils se sont fait une bagarre, une bataille peut-être tactique, et peut-être que l'entraîneur du Bayern n'a pas mis la bonne équipe qu'il fallait, j'en sais rien, ils n'avaient pas les ingrédients, est-ce qu'ils se sont vus gagner avant ou pas, voilà. En tout cas, moi, je pense, mon avis à moi, c'est que ça n'a pas été, c'est mon avis, hein. Je pense que Guy, en tant que spécialiste et expert, en pense, mais moi, ça n'a pas été une grande pub pour le foot, parce que j'ai quand même eu l'impression que les Italiens n'ont jamais cherché vraiment à jouer. Ils ont dominé.
Ils ont joué leur football, hein, et puis voilà.
Ouais, voilà, ils ont dominé physiquement, ils ont fait du pressing. Et à partir du moment où ils ont pris l'avantage, ils ont tout le temps appuyé sur les points forts, fait beaucoup de fautes, plein de petites fautes, plein de choses comme ça. Et moi, je prends vraiment aucun plaisir à regarder ce genre de match. Alors le problème, c'est qu'effectivement en face, t'as une équipe du Bayern qui est passée un peu au travers, qui a même pas réussi à se donner des occasions, des choses comme ça. Donc c'est vrai que c'était particulièrement triste, quoi. Pour moi, en tout cas, c'était vraiment pas une belle finale, quoi.
Alors par contre, samedi, ça n'a pas été la journée des Lyonnais et des Lyonnaises. Lyon battu, donc on l'a dit, avec Alexandre en finale de Ligue des Champions féminine, 2-0 par le Barça. Et puis on l'a dit, donc Lyon facilement battu par le Paris Saint-Germain 2-1 en finale de Coupe de France.
Ouais, tout à fait. C'était la sale journée de l'Olympique Lyonnais. Bah, on peut pas toujours quoi, ça malheureusement ce qu'il faut pas, il faut surtout pas, pour cette équipe en tout cas et pour ce club, rester sur ce samedi là parce que c'est quand même deux saisons magnifiques, quoi. Aller en finale de la Ligue des Champions, déjà c'est pour les filles, c'est quelque chose d'extraordinaire. Gagner le titre, bon, c'était leur 17e, je crois, titre de championne, donc c'est exceptionnel. Pour l'Olympique Lyonnais, n'en parlons pas. Si on vous avait dit, bien sûr, la phrase bateau, si on vous avait dit début décembre qu'il serait qualifié pour la Ligue Europa avant même de jouer la finale et qu'il jouerait la finale de la Coupe. Le problème, c'est que on a un peu. J'ai vu, je ne sais pas si vous avez vu ce que vous en pensez, ce que les observateurs ont, on a vu les commentaires des joueurs. Et les réactions après le match, peut-être à l'exception justement de Pierre Sage, qui paraissait beaucoup plus raisonné, on a l'impression qu'ils avaient mené 3-0 en finale de la Coupe du Monde, c'était faire remonter, et puis qu'ils avaient finalement perdu 4-3, alors que ça aurait été quand même un exploit pour eux de gagner ce match, quoi. Ils étaient très loin d'être favoris. On a réussi à monter des histoires de Mbappé à Cannes, Dembélé à Cannes, le Paris Saint-Germain qui est pas bon, je sais pas, pour presque en faire dans certains médias des favoris. Les résultats, ils sont tombés de haut, mais sinon, il faut pas rester là-dessus, parce que la saison de Lyon, moi, je dirais pas que la saison de Lyon, elle est exceptionnelle, parce que la saison de Lyon, ils sont sixième avec le troisième budget de Ligue 1, donc ça reste quand même une grosse déception. Maintenant, l'exploit fourni par Pierre Sage à partir du moment où il a pris l'équipe en main, effectivement, ça c'est exceptionnel, c'est exceptionnel, mais faut pas dire, on peut pas dire que la saison de Lyon elle est exceptionnelle. Et on avait dit en début de saison à Lyon, vous perdrez en finale de la Coupe de France et vous finissez sixième. Je ne pense pas qu'il y a un Lyonnais qui aurait signé pour ça. Hein.
Bien
sûr. Donc, il faut un petit peu être un petit peu relativisé quand même, quoi.
Alors, on va te laisser. Hein. Je sais que tu es en bouclage. Juste un petit mot sur les playoffs et sur le barrage qui se profile donc entre Metz et Saint-Etienne. Ça va être du 50-50. Finalement, les playoffs, ils ont respecté donc la saison régulière.
Ouais, la saison régulière. Bah, de toute façon, on le sait. Hein, c'est quasiment impossible déjà de monter. Je ne sais même pas s'il y a...
Il y a Klaus qui a failli le faire il y a 4 ans. Il n'a pas manqué grand-chose à Lens. Puis,
ouais, ouais. Contre Dijon, c'est ça.
En oui, ils avaient gagné leurs 2 matchs de play-off en terminant donc 5e du championnat.
Voilà. Et déjà, et après, ils ont perdu contre Dijon, malheureusement.
Oui.
Et ils ont gagné. Mais bon, en règle générale, je crois que c'est jamais arrivé. Il a failli le faire, comme vous avez dit. C'est jamais arrivé qu'un club de Ligue 2 qui ne termine pas 3e arrive à monter. Déjà, qui arrive à monter. Il y a eu Auxerre l'année dernière. Sinon, je crois que c'est tout, club de Ligue 2. Et c'est hyper compliqué, quoi. Ils jouent tous les 3 jours. Ils arrivent en fin de championnat, ils sont épuisés, ils sont épuisés et tout.
Voilà.
Et donc c'est très très compliqué quoi. Et maintenant pour moi, je trouve pas que ça sera du 50-50. Hein.
Ah bon ?
Je pense que ça sera. Ah non, moi je pense que ça sera quand même du 55-45 pour le club de Ligue 1 quand même. Hein.
D'accord. Bah, on verra ça la semaine prochaine. Voilà.
Ouais,
Auxerre, c'était il y a 2 ans, ils étaient redescendus donc la saison dernière. Bon bouclage, merci Stéphane.
Ouais, bah de rien. Bonjour, puis... grosse bise à mon ami Guy.
Ah bon, on s'est régalé. On s'est régalé avec Guy.
Ok, et voilà. À plus. Allez, bonne soirée.
Merci Stéphane, merci. Voilà.
Salut Stéphane.
Voilà. Allez, on va maintenant finir cette émission en parlant un peu des échanges qui arrivent, Euro puis Olympique. Mais avant, Vanessa, où se trouve la femme olympique actuellement ?
Bah, dans l'Indre. Dans l'Indre, exactement. Voilà. Dans l'Indre, aujourd'hui. Je voulais me faire un petit peu un retour, hein, puisque depuis qu'on s'est quitté il y a 2 semaines, puisque la Pentecôte, la flamme a bien voyagé. Donc, c'était mardi 14 mai, hein. On s'était quitté le 13 mai, elle était encore à Bastia. Et figurez-vous qu'il y a eu un beau gratin, il y a eu Mathieu Lehaneur, évidemment, celui qui a désigné, qui a conçu hein, la torche olympique et le chaudron. Il y avait aussi notre ami Patrick Fiori, qu'on ne présente plus, évidemment. On a tous connu la comédie musicale. Et puis, il y avait également Pascal Olmeta. Donc,
présente plus. Ça va de soi, hein.
Voilà. Et puis... c'est Priscilla Nieto hein, qui a allumé le chaudron. Elle était médaillée en bronze à Tokyo en judo dans les moins de 52 kilos. Et puis elle a été championne d'Europe en 2017 dans les moins de 57 kilos. Donc comme je vous disais, hein, la flamme a bien voyagé. Elle est partie après à Perpignan. Et à Perpignan et Font-Romeu, c'était Perrine Lafont, hein, logiquement la grande championne de ski acrobatique qui faisait partie des porteurs de la flamme. Et puis aussi Fanny Orsia en rugby à 7, elle a allumé la flamme sur le pic du Canigou, hein, fameux pic très connu. Et puis après, on a continué notre petit voyage à Carcassonne. Ah, donc,
la belle ville de Carcassonne.
La belle ville de Carcassonne, ouais. Exactement, avec Dimitri Pavadé, notre parathlète qui sera sur les Jeux cet été. Et puis la chanteuse Olivia Ruiz, hein, on sait tous qu'à chaque fois, la cérémonie, elle réunit à chaque fois les porteurs de la flamme. C'est à la fois des anonymes, des stars de la culture et puis évidemment des sportifs de haut niveau. Elle est partie après à Toulouse et puis évidemment Antoine Dupont et Romain Emiltamak, logiquement,
ville
de rugby, exactement. Ouais. Donc il faut croire que peut-être ça leur a porté bonheur. Évidemment, c'est l'entraînement et puis c'est leur niveau. Mais c'était... des choses un peu conjointes comme ça, c'était une belle lignée d'événements. Elle est partie à Bordeaux, et évidemment, il y avait notre chef Thierry Marx, il me semble que c'est lui qui sera en charge.
Oui, c'est le parrain des Paralympiques.
C'est lui qui a fait.
On l'avait interviewé pendant la cérémonie.
Et il me semble qu'il fait les menus cette année, où je me trompe peut-être des athlètes, voilà. Puis Benjamin Garcia, excusez-moi, un skater, et puis des personnalités locales politiques, hein, comme le maire de la ville de Bordeaux, Philippe Buisson. La flamme est aussi passée par Périgueux, excusez-moi, qui est juste à côté de Bordeaux. Et puis elle a poursuivi son chemin, notamment elle était passée par Tarbes, ça j'avais oublié de le dire. Et puis, elle est arrivée ce week-end en Vienne hein, et en Charente. En Vienne et en Charente.
Il y a Brigitte Henriques, l'ancienne présidente du CNOSF, donc qui l'a portée. Voilà.
Et puis, Erwin Ngapé aussi, notre volleyeur. Et puis, Émilie Lepenec, notre gymnaste médaillée d'or au JO de 2004. Ouais. Et puis, elle est passée aussi par... par Châtellerault et puis d'autres villes à venir comme Angers, voilà. Caen. Voilà.
Et aujourd'hui, elle était donc dans l'Indre, côté de Châtellerault.
Oui, voilà. Exactement. Notamment. C'est ça. Et
voilà. Puis, voilà. Bah, et merci Vanessa, elle va continuer. Alors justement, Guy, les Jeux Olympiques, on y vient.
Puis juste pour rajouter qu'elle a été assez allumée au Futuroscope à Poitiers.
Bien sûr.
Voilà.
Alors Guy, les Jeux Olympiques, on y vient. C'est important pour un footballeur de gagner les Jeux Olympiques. On va rappeler que l'équipe de France, donc, chez les hommes, va tomber sur les USA, la Guinée et la Nouvelle-Zélande, puisque la Guinée a obtenu son billet donc, en battant une équipe d'Indonésie à Clairefontaine 1-0 il y a quelques semaines. Et les femmes contre la Colombie, le Canada et la Nouvelle-Zélande aussi. Est-ce que c'est important? On a croisé la génération de 84.
Ah ben oui, c'est important. Bien sûr, c'est important. Ouais. Regardez, tous les grands joueurs ont envie de jouer les Olympiques.
Ouais.
Oui, c'est vrai. Regardez Mbappé,
et
là.
Et puis ils ont gagné, mais si Neymar l'a gagné, Drogba nous disait que c'était pareil.
Hein, bien sûr.
Ouais, ouais.
Il aurait rêvé de la jouer. Bon. Ouais. Non, c'est important pour un footballeur, c'est très important.
Et il y a des chances qu'on aille loin, parce que Thierry Henry, il a quelques difficultés. On l'avait rencontré dans l'interview, il nous disait que c'était pas évident de constituer une telle équipe quand même. Hein.
Oui, enfin, le groupe n'est pas extraordinaire quand même.
Oui, bien sûr. Bah, je crois que c'est en
quart de finale. Faire attention aux États-Unis, peut-être.
Oui, puis c'est en quart de finale que je crois que ça va se corser, quoi.
Ah ben oui.
Mmh. Enfin bon, optimiste, on peut ramener des médailles chez les femmes aussi pour justement développer un petit peu plus le foot féminin.
Ben oui. Ouais. On a gagné la médaille olympique en foot.
Oui, 84, après l'Euro.
En 84. Ouais. C'était pas en France.
Non, c'était devant le Brésil en plus de
2. Eh oui, devant le Brésil.
Ben oui.
Hein. Et en Brésil,
déjà
à l'époque. Un Brésil qui était une belle équipe à l'époque. Hein. Mmh. Mmh. Non, je pense que ils peuvent aller loin.
Très bien. Et puis l'Euro, on en parlera à travers des émissions spéciales sur notre antenne. L'Euro, ça va le faire, Didier Deschamps, ça va faire mieux qu'il y a 3 ans, éliminé en 8e de finale. C'est ce qui manque, simplement.
Ouais, il y a eu un couac, là, en
2021,
voilà. Il y a eu un couac contre les Suisses.
Ouais.
Bon, pas pour ça que ça va se reproduire. Hein.
Non.
Bon, je pense quand même qu'il y a un collectif dans l'équipe de France qui est assez solide. Avec des joueurs qui ont de l'expérience, qui ont déjà été champions du monde et vice-champions du monde, je pense que ça devrait quand même le faire. Hein.
Oui, parce que.
Déjà passé le premier tour quand même.
Oui, l'Autriche, donc ensuite les Pays-Bas et la Pologne. Bon, c'est pas le groupe le plus facile, mais c'est pas le plus difficile non plus quand même. Hein. Ouais. Il y a des équipes qui peuvent surprendre, peut-être l'Angleterre, l'Allemagne qui revient bien.
L'Angleterre est une équipe qui est en train de monter.
Ouais.
Je pense qu'ils ont des très très bons joueurs également. Il y a toujours les mêmes. Hein. Mm-hmm. Toujours les mêmes. Et puis là, dans une équipe, un championnat comme l'Euro, il ne faudra pas oublier l'Espagne.
Oui, malgré tout.
Oui, il ne faudra pas oublier l'Espagne, il ne faudra pas oublier l'Allemagne qui joue à domicile.
Et qui revient bien.
Et qui revient bien.
Oui, font des bons matchs amicaux là.
Moi, je vois bien un carré. Angleterre, Allemagne, Espagne et France.
Très bien, on vivra ça comme pour le mondial en 2022. Merci Guy, ça a été un énorme plaisir. Hein. Et puis,
merci à vous.
Merci.
Voilà, je voulais simplement préciser, avant de donner l'antenne à l'ami Malik, pour Au bout du foot, il va prolonger encore ce qu'on vient de dire au cours de cette émission. Lyon, c'est 17 titres de championne de France, 10 Coupes de France, 3 trophées des championnes et 8 Ligues des champions. Voilà. Et
je voulais juste rajouter aussi la qualification d'Alexandre Muller à Roland-Garros. C'est la première fois qu'il se qualifie au deuxième tour, donc c'était aussi un beau résultat hier pour la France. Puis Carlos Alcaraz, l'Espagnol, qui revient après une blessure, qui était contre un Américain, mais voilà, il a réussi à s'en détacher.
Eh ben c'est bien, c'était les infos en live, en direct. Merci pour votre fidélité, merci à Jason et puis donc à Léonard d'avoir été à la technique encore une nouvelle fois pour cette émission. Et puis vous pourrez la retrouver en podcast comme toutes les émissions précédentes. Dans un instant, on prolonge avec Malik et Au bout du foot, belle soirée à toutes et à tous sur Mon Paris FM. Rendez-vous la semaine prochaine. Salut.
Qu'il est loin mon pays, qu'il est loin. Parfois au fond de moi se ranime l'eau verte du canal du Midi. et la brique rouge est minime. Au mon pays, au Toulouse, au Toulouse. Je reprends l'avenue vers l'école. Mon cartable est bourré de coups de poing. Ici, si tu cognes, tu gagnes. Ici, même les mémés aiment la castagne. Ô mon pays, ô Toulouse, un torrent de cailloux roule dans ton accent. Ta violence bouillonne jusque dans tes violettes. On se traite de con à peine qu'on se traite. Il y a de l'orage dans l'air et pourtant l'église Saint-Cernin illumine le soir d'une fleur de corail que le soleil arrose. C'est peut-être pour ça, malgré ton rouge et noir. C'est peut-être pour ça qu'on te dit ville rose. Je revois ton pavé, oh, ma cité gasconne. Ton trottoir éventré sur les tuyaux du gaz. Est-ce l'Espagne en toi qui pousse un peu sa corne? Ou serait-ce dans tes tripes une bulle de jazz? Voici le Capitole, j'y arrête mes pas. Les ténors enrhumés tremblaient sous leurs ventouses. J'entends encore l'écho de la voix de papa. C'était en ce temps-là mon seul chanteur de blues. Aujourd'hui tes buildings grimpent haut. À Blagnac tes avions sont plus beaux. Si l'un me ramène sur cette ville, pourrais-je encore y revoir ma pincée de tuiles? Ô mon pays, ô Toulouse, ô oh!